Philippe Quentin sera peut-être en mesure de m'éclairer, parce que je le soupçonne d'être de ceux qui pensent que la présence de Lou Lamoriello comme nouveau DG des Islanders de New York augmente les chances des Islanders de garder John Tavares en place. Je comprends pas pourquoi ça serait le cas. Philippe, bonsoir.
Salut Mario.
Écoute, quel accueil ce soir. Non, mais c'est place sur le spot.
Non, ben écoute, oui, je pense sincèrement que l'arrivée de Lou Lamoriello change la donne. Je te dis pas que ça veut dire automatiquement que John Tavares va signer avec les Islanders, pas du tout. Mais mets-toi dans la peau de Tavares. Ça fait plusieurs années maintenant que de ses patrons à Long Island, il entend le même discours. Oui, oui, on va s'améliorer. Oui, oui, on a un plan. Oui, oui, les choses vont mieux aller. Mais tout ça, tout à coup, j'ai l'impression que ça doit lui rentrer par une oreille puis lui sortir par l'autre, parce qu'on ne voit pas véritablement les résultats. Et encore cette année, il a connu une bonne saison, il y a des bons joueurs avec lui, mais ce n'est pas suffisant. Les Islanders ne participent pas aux séries. Et lui, il regarde ça, puis tu sais, l'argent, là, il va l'avoir dans n'importe quelle ville qui est intéressée à ses services. Alors qu'il arrive il y a 27 ans, 28 ans, lui, ce qu'il veut, au fond, c'est gagner une Coupe Stanley. C'est ça qui va faire la différence. Alors là, il faut qu'il va sûrement se dire, moi, je veux choisir une organisation où je peux gagner la Coupe. Et j'ai pas l'impression qu'avec la direction des Islanders jusqu'à hier, il avait cette impression-là. Maintenant arrive Lou Lamoriello. Lou Lamoriello, c'est pas un jeune homme, on s'entend tous là-dessus, mais c'est un gars dont le nom est associé au succès. Il y a eu du succès partout où il est passé. Il y a eu du succès, bien sûr, au New Jersey pendant toutes ces années. Puis il y en a eu à Toronto aussi, où, oublions pas, là, c'est lui qui a réussi à vider l'équipe pour faire en sorte que l'équipe ait des bons choix au repêchage. Donc, c'est un gars qui a un plan, c'est un gars qui est solide, c'est un gars qui connaît le hockey. Et je trouve qu'il apporte de la crédibilité à l'organisation des Islanders.
Alors,
quand il s'assoit avec John Tavares et qu'il lui explique c'est quoi son plan, si Gard Snow explique à Tavares c'est quoi son plan, puis Lou Lamoriello explique à Tavares c'est quoi son plan, dans la tête de Tavares, qui tu penses parle le plus fort? Qui résonne davantage?
Ah, t'as raison. De cet angle-là, t'as 100% raison. Lamoriello, c'est bon. Sûr que... Et c'est peut-être... Mais peut-être trop tard du point de vue de Tavares. Au moment où tes valises sont faites. Hey, coucou, hey, John, hey, on a une vision. Tiens, on vient d'engager un jeune nouveau dirigeant là, qui est l'avenir du hockey. Je sais pas, tu sais...
Non, t'as raison. Ça dépend où il en est rendu dans sa réflexion. Mais oublie pas que les joueurs, parfois, ils se donnent jusqu'à la dernière limite. Tout le monde
c'est
pensait
vrai.
Que Stamkos s'en allait à Toronto. Hein, il avait, je pense qu'il avait même rencontré le maire de la ville quand il est allé visiter Toronto quelques jours avant le 1er juillet. Finalement, il est resté où il était avec le Lightning de Tampa Bay. Alors moi, j'ai l'impression que la décision de Tavares, elle n'est pas encore faite. De toute façon, il va falloir qu'il voit un peu qui est intéressé, quel genre d'offres on va lui faire. Mais moi, j'ai l'impression qu'au bout du compte, les offres, elles vont se ressembler un peu. Ce qui va faire la différence, j'ai l'impression, c'est véritablement l'équipe qui va lui donner la chance, de participer aux séries éliminatoires de manière régulière au cours des 3 à 4 prochaines années, puis une équipe qui va lui donner la chance de gagner la Coupe Stanley. Et de ce côté-là, le dirigeant est important. Il faut que le joueur achète le plan du dirigeant. Tu sais, souviens-toi quand Carey Price a signé son contrat avec le Canadien l'an dernier, une des premières choses qu'il a dites dans l'appel conférence, j'étais là à Brossard là, quand il y a eu l'appel conférence, il était au téléphone. Et on était un groupe de journalistes. Puis une des premières choses qu'il a dites, c'est qu'il achetait le plan de Marc Bergevin, qu'il croyait véritablement que Bergevin était en train de bâtir une équipe gagnante. C'est important, cet élément-là, parce que Price est un petit peu dans la même situation. Il a tout gagné, Price, dans sa carrière. Il a été honoré de toutes les façons, gagné les trophées les plus importants, gagné chez les juniors, gagné dans la Ligue américaine, gagné aux Jeux olympiques, gagné la Coupe du monde. Ce qu'il veut gagner maintenant, c'est une Coupe Stanley. Et donc, il voulait quand même aussi une équipe qui lui donnerait cette opportunité-là. Il a pensé que le Canadien, il y a sûrement toute la question, évidemment, le salaire, la sécurité et tout, mais il en reste pas moins que ces joueurs-là qui ont été tellement dominants, en tout cas à une certaine époque, ils veulent avoir la chance de gagner la Coupe Stanley. Et donc, j'ai l'impression que pour Tavares, ça va être un élément important de sa décision et je pense que les Islanders sont plus crédibles à ce niveau-là avec Lamoriello comme directeur général que Gard Snow. Donc, je pense que ça augmente les chances. Je ne dis pas que ça veut dire qu'il va signer avec les Islanders. Je pense que les chances sont plus élevées aujourd'hui que hier que Tavares signe avec les Islanders.
Je vais absolument nous garder du temps pour nos deux autres sujets, mais j'ai quand même envie de te demander, juste pour jouer le jeu, au-delà de ce sujet-là, on dit qui choisit prend pire.
Ouais.
Honnêtement, on essaierait, toi et moi, de choisir. On est John Tavares. Choisis l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ouais. dans 5 ans. Tu sais, ouais, les Jets, là, il n'y a rien d'écrit dans, il n'y a rien qui garantit qu'ils vont en gagner une dans les 10 prochaines années.
Il n'y a rien qui garantit
dit,
rien.
Non, il n'y a rien qui dit que Toronto va en gagner une, ni Edmonton, ni, fait que, j'ai hâte de voir.
Non, puis tu sais, les succès des Golden Knights cette année viennent encore ajouter à cette incertitude, parce que qui aurait pensé que les Golden Knights se retrouveraient en finale de la Coupe Stanley? Alors, une fois qu'on est d'accord avec ça, puis je pense que Tavares, il en vient sûrement à la même conclusion, il n'y a rien de garanti. Tu peux quand même te baser sur un certain nombre de choses, et je pense qu'un élément important, c'est la confiance que tu as la direction de l'équipe à laquelle tu veux te joindre de bâtir une équipe gagnante. Ça, je pense que c'est important. Alors, tu veux aller dans une organisation qui a montré dans le passé, avec un directeur général probablement, qui a montré qu'il est capable de bâtir une belle équipe. C'est le mieux que tu peux espérer. Surtout, encore une fois, je reviens au point, parce qu'au niveau de l'argent, tu sais, Tavares, il va en avoir partout. Bien sûr, on peut penser au taux d'imposition et tout, où il veut vivre, sa famille, etc. Ça aussi, ça compte.
Ultimement, ça devrait pas être l'élément qui fasse la différence, parce qu'il va l'avoir de partout. Voilà. Mais ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire dans ta fin de phrase, par rapport à la confiance qu'on a envers une organisation. Est-ce que tu penses que Piatti peut avoir perdu confiance en la direction de l'Impact de Montréal? Parce que on a bien voulu penser que l'Impact se dirigeait vers une saison intéressante en 2018, mais là, tu as pris connaissance des propos de Joey Saputo.
J'ai pris connaissance. Écoute, j'étais pas au match lundi après-midi. J'ai pas pu y aller. J'étais un petit peu à l'extérieur de Montréal et je rentrais à Montréal et j'écoutais la fin du match à la radio. Et je pense que l'entrevue avec Joey Saputo après le match, ça a été meilleur que le match parce que Joey Saputo, il en a dit beaucoup de cette entrevue-là. Je vais t'avouer que j'écoutais ça. Je disais, mais mon Dieu, il est en train de nous dire que Piatti ne reviendra pas. Là, tu sais, qu'il a commencé par dire d'abord, on va prendre des décisions qui plairont pas beaucoup aux amateurs. Mais là, tu sais, il y a combien de joueurs à Montréal que le monde aime, tu sais, qui connaissent suffisamment, là, tu sais. Donc, il y en a un, alors, c'est lui. Et là, après ça, bon, évidemment, ses propos ont été bien repris partout, à l'effet qu'au lieu d'avoir un joueur à 6 millions, t'es peut-être mieux à 3, à 2 millions, puis il a à peu près laissé entendre qu'il regrettait d'y avoir donné ce contrat-là. Bref, c'était une phrase très dure après l'autre. Alors, si t'es Piatti, c'est sûr que tu te demandes aujourd'hui quel est ton avenir avec l'organisation. Mais je pense qu'on a eu, grosso modo, on a eu la réponse aussi. Mais tu sais, moi, je regarde ça, puis je vois un peu le ressac des propos de Joey Saputo, puis beaucoup de gens, puis avec raison, tu sais, expliquent que Piatti, c'est un peu le visage de l'organisation, il est quand même populaire, les gens l'aiment et tout. Mais moi, Piatti, je suis pas encore convaincu, Mario, que c'est un gars qui peut faire gagner, tu sais, qui va amener ton équipe à un niveau supérieur. J'ai jamais été convaincu de ça. L'an dernier, j'ai pas trouvé qu'il avait tout le temps eu la bonne attitude dans toute la période qui a entouré sa renégociation de contrat. Tu sais, bon, il en parlait beaucoup. Puis tout ça, j'ai l'impression que tout ça est devenu tellement important pour lui. Finalement, il a gagné son point. Bravo.
Il rajeunit pas.
Non, puis l'équipe n'a pas eu beaucoup de succès l'an dernier. Tu sais, je pense, là, et en tout respect pour Piatti, là, tu sais, c'est sûr que même un Drogba vieillissant à 36 ans quand il est arrivé à Montréal a transformé l'Impact. Didier Drogba, il a fait en sorte que quand il est arrivé, l'Impact, à peu près du jour au lendemain, n'a plus été la même équipe. L'Impact est devenu une équipe avec beaucoup de confiance en elle. Il a créé un buzz absolument incroyable à Montréal. Les gradins se sont remplis, les maillots se sont achetés. Il y a eu un retentissement exemplaire. Et donc, l'investissement de Joey Saputo dans Didier Drogba, ça a été un investissement payant, puis l'équipe a participé aux séries éliminatoires les 2 années où il a été là. Même la 2e année, il y a eu de la controverse, est-ce qu'il va revenir, oui, non, puis après ça, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il jouera pas en séries éliminatoires, mais tout ça a créé, pour reprendre le mot de Joey Saputo, un buzz extraordinaire à propos de l'Impact. C'était devenu, tu sais, un sujet de conversation. Aujourd'hui, on parle pas de Piatti comme ça, tu sais, Piatti est à très, très loin d'avoir un effet comme celui-là. Et quand tu payes un joueur ce montant-là, là, si c'est le cas, 5 millions américains ou 6 millions canadiens, c'est énormément d'argent et je pense qu'il faut que dans cette ligue-là, ce joueur-là fasse match après match la différence. Oui, je comprends le collectif, on joue ensemble, c'est une équipe. Bien d'accord avec ça, là, mais il n'en reste pas moins que s'il y en a un qui est mieux payé que les autres, il y a une raison aussi. Il faut qu'il soit le leader en tout temps de cette équipe-là. Et moi, je ne suis pas encore convaincu que Piatti a démontré ça sur une base régulière avec l'Impact. Et j'ai l'impression que Joey Saputo doit en venir revenir un petit peu à un raisonnement semblable.
En même temps, quand tu penses à l'entourage qu'il avait avec Drogba et les autres, ben, c'est une équipe qui a livré toute une bataille à Toronto, qui est la meilleure équipe de la MLS depuis 2-3 ans, sauf cette année. Fait que, est-ce que c'est parce que c'est le désert autour de lui aussi? Je trouve que c'est une question à laquelle...
C'est une bonne question, c'est une bonne question.
Il faut réfléchir, mais j'aime tes arguments. Bref, c'est une discussion qui est lancée. 3x2 ou 1x6? Ajouter millions après les chiffres, c'est un peu la question que soulevait Joey, mais je voulais nous garder du temps sur Eugénie, à moins que tu veuilles qu'on
finisse. Non, je pense que c'est important de parler de tennis un petit peu. Grosse journée, un peu décevante aujourd'hui, mais pour Eugénie Bouchard, là, franchement, c'est de plus en plus catastrophique. Non seulement elle perd son premier match de qualification à Roland-Garros, mais elle s'est fait... elle n'a pas du tout été dans le match, puis on sait très bien, au deuxième set, elle a abandonné sur blessure, donc elle est blessée, ça va pas, son classement, ça va pas. Vraiment, elle est à un moment vraiment très, 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 très dur de sa carrière. Tu te demandes tout le temps comment elle va faire pour se relever de tout ça, mais ça va être très difficile. Félix Auger-Aliassime, c'est une autre chose. Il a perdu aujourd'hui. Mais quand tu perds contre un joueur à 17 ans, tu perds contre un joueur mieux classé que toi sur terre battue, puis que ce joueur-là, c'est un Espagnol, ben, tu peux comprendre un peu plus pourquoi.
Défaite de Françoise Abanda également.
Oui, la veille.
Alors, on s'en reparle, Philippe. Bon septième match ce soir.
Oui. Hey, moi, je pense que t'aimes pas, contrairement à toi, Vogel.
Ah, bon, on regarde ça, on s'en reparle. Salut. On revient avec François Dumontier.